jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Mes invités autour de la table, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2 et auteur de « Et s'il gagnait encore ?» chez VA Éditions, un livre qui vient de sortir. Bonsoir Jean-Éric.
Bonsoir Mathieu.
Merci d'être avec nous en studio. Il, c'est qui? C'est Donald Trump, stop ou encore Four More Years, disent ses supporters. Nous allons voir cela jusqu'à 20h. Nous appellerons aussi Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. Et tiens, un mercredi soir, Gérard Carrérou est avec nous. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Thomas.
Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1, un grand connaisseur de la politique américaine. Nous allons débattre au cours du cas Donald Trump. Mais d'abord, Benjamin Muller, comme tous les soirs. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Mathieu, bonsoir Omblin, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors comme chaque soir avec vous Benjamin, on voit comment les différents médias traitent un sujet de l'actualité. Ce soir on va parler du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, le Salon du Bourget.
Absolument, c'est dit comme ça. Et oui, c'est toujours un événement hein, le Salon du Bourget. Un grand moment pour les fans d'aviation. Sur France Info par exemple, on partage cet enthousiasme.
Au fil du temps, les grands salons aéronautiques comme celui du Bourget sont devenus austères, voire ennuyeux.
Oui, enthousiasme relatif. Donc, c'est vrai que cette année, on parle un peu moins des nouveautés d'Airbus ou de Boeing et un peu plus de politique. Christophe Barbier sur BFM.
C'est la contestation de tout le transport aérien pour des raisons de pollution. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prendre l'avion pour faire telle ou telle distance?
Et oui, débat de fond avec bruit d'hélicoptère en fond sonore. Derrière Christophe Barbier, c'est toujours comme ça. Mais donc, ce bon Barbier qui imagine les questions que l'on va tous se poser demain.
Est-ce que demain, on n'interdira pas aux hommes d'affaires d'avoir un jet privé pour leur entreprise et de l'utiliser pour tel ou tel court déplacement?
Voilà, il parle des hommes d'affaires. Il aurait aussi pu parler des stars de la radio, hein, Mathieu, qui vont manger des huîtres en Normandie le week-end en avion. Ça, avec Omblin, vous allez peut-être devoir vous tourner vers le covoiturage ou le train. Bref, préparez-vous, n'importe c'est l'avenir. Quoi. En Suède, de plus en plus de clients ne veulent plus entendre parler de l'avion. Je l'ai appris sur BFM Business.
En suédois, on dit flugskam.
Flugskam.
Flugskam, la honte de voler.
Et alors, pour en parler de cette honte de voler, la chaîne a reçu...
C'était un meuble Ikea, pardon.
Ça y ressemble. La chaîne a donc reçu le PDG de la compagnie XL Airways qui s'appelle Laurent Magnien. Que répondre aux gens qui ont honte de prendre l'avion?
Est-ce que la honte de voler est en train de saisir certains des clients d'XL Airways?
Alors moi j'ai déjà toujours pensé que voyager ça rendait moins con.
Voilà, ça c'est une bonne réponse, faudrait peut-être un peu argumenter.
Je pense qu'il y a des tas de choses dont on peut se passer, mais la liberté de voyager, je pense que c'est la dernière chose qu'il faudra arrêter. Le jour où l'homme ne bouge plus, il va être effrayant. Il est déjà effrayant en bougeant, donc on peut imaginer que s'il bouge plus, ça va juste être un cauchemar. Voyager en moins con, c'est ma phrase préférée.
Mais ils devraient en faire leur pub. Et... J'aime bien, mais j'aimerais bien le rencontrer.
Oui, on devrait l'inviter. J'ai l'impression que votre avion pour Deauville a encore un peu d'avenir. Si on écoute ce monsieur. Ce matin, Mathieu Noël a reçu un spécialiste de l'aéronautique. Question, à quoi va ressembler l'avion de demain?
Ah ben, ça sera un avion qui serait très différent. Hein. Pour moi, la saucisse avec les deux ailes, c'est terminé.
Ah, la saucisse avec les deux ailes, c'est terminé. Mathieu, peut-être une réaction?
J'aimerais savoir dans quel contexte vous utilisez le barbecue. Ça, c'est une question perso.
Mais non, Mathieu, il disait saucisse, c'était une image. Rien à voir avec... Bon, bref, c'est pas grave, votre obsession, on y revient. Donc, cet avion de demain, il va ressembler à quoi?
D'ici 15 ans, 20 ans, on aura des nouvelles formes qui ressembleront, alors sans ressembler encore à Star Wars, hein, mais peut-être à des ailes Delta. Si vous voyez les cruiseurs de l'Empire. Star Wars, c'est moins gros. Hein,
quand même. Et ben voilà, on y est. L'avion de demain, ce sera Star Wars, les cruiseurs de l'Empire.
Ça me fait rêver.
Ah, ça c'est mieux déjà. Hein.
Mais il faut faire
ça
rêver les gens.
Ça donne un peu plus envie de voyager. Puis si on pouvait juste étendre nos jambes, nous les grands, ce serait déjà une grande
oui,
avancée.
Oui, avant de revoir les ailes, les saucisses, tout ça.
juste un peu de place.
Si on pouvait écarter les sièges. Merci Benjamin Muller.
Europe 1.
19h27, merci encore Benjamin Muller, que l'on retrouve demain. Le débat autour de Donald Trump, c'est à suivre sur Europe 1. A tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 et vous invitez Mathieu Béliard jusqu'à 20h. Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2, auteur de « Et s'il gagnait encore ?», paru chez VA Éditions il y a quelques jours. Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1 ce soir, ce mercredi. Et puis Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis qui est en ligne.
Bonsoir Xavier.
Bonsoir Mathieu, bonsoir.
Merci d'être avec nous, comme si vous étiez autour de la table, mais aux États-Unis. Ça y est, Donald Trump a lancé sa campagne pour la présidentielle américaine de 2020. La première chose que l'on fait quand on a un président sortant qui se représente, c'est questionner le bilan. Et là, le contexte est plutôt favorable pour Donald Trump.
Oui, c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image, mais il y a 4 ans, Donald Trump avait déclaré sa candidature en descendant de l'escalator de la Trump Tower. Et à ce moment-là, à peu près, tout le monde avait rigolé. 4 ans après, le contexte est plus du tout le même. Donald Trump va bénéficier de plusieurs choses. Déjà, la prime aux sortants, parce que c'est très rare qu'un président américain sortant ne soit pas réélu. C'est arrivé très peu de fois. Il a l'excellente santé de l'économie américaine, dont il peut se prévaloir. Le chômage est tout plus bas depuis des dizaines d'années. Même les emplois manufacturiers sont repartis à la hausse. Le Dow Jones pète les scores. Il n'y a pas de guerre majeure sous le mandat de Trump, qui est parfois un argument pour les adversaires. Donc il y a de la paix, il y a de la prospérité. Tout ça, c'est un contexte très favorable pour Donald Trump. Et puis aussi, Donald Trump, il tient ses promesses. Il peut le dire, il fait ce qu'il dit. Il avait dit qu'il se retirait de la plupart des accords internationaux qu'il dénonçait, comme celui de Paris sur le climat, l'Iran, les accords commerciaux en Amérique du Nord. Il l'a fait. Il a nommé les juges très conservateurs qu'il avait promis à la Cour suprême. Il a d'ailleurs nommé aussi plein de juges très conservateurs ailleurs. Il s'en vante beaucoup auprès de l'électorat conservateur. Il a dit qu'il baisserait les impôts. Il l'a fait. Il a essayé d'interdire l'entrée dans le pays à des ressortissants musulmans. Il n'a pas réussi, mais il a essayé, donc il va pouvoir dire « j'ai essayé ». Après, voilà, il y a le mur à la frontière qu'il n'a toujours pas réussi à construire. Alors il dit « c'est pas de ma faute, c'est les démocrates, ils ne veulent pas voter, ils ne veulent pas me donner d'argent pour construire le mur ». Il n'a pas réussi à changer l'Obamacare. Il dit aussi que c'est la faute des démocrates, c'est pareil, et que donc il faut le réélire pour qu'il arrive à faire tout ça.
Alors très bien, j'ai autour de la table avec nous Xavier, Gérard Carrérou et Jean-Éric Brana. Deux voix, si vous remontez le temps, deux voix qui avaient prévenu que Trump pouvait être élu en 2016. Alors ça faisait ricaner tout le monde à l'époque. Je vais leur demander de s'engager. Jean-Éric Brana, et s'il gagnait encore, c'est le titre de votre livre, ça aurait dû être la fin normalement de cette séquence. Vous pensez qu'il peut gagner ?
C'est pas gentil, vous êtes en train de spoiler mon bouquin, puisque tout le monde le sait autour de cette table. Je donne mon pronostic dans le livre, alors je vais être obligé de le faire maintenant, ce qui fait que je ne vends plus un seul livre, bien sûr.
Oh, il est épais, il est épais, c'est vrai.
Mais écoutez, donc dans ce livre, j'explique sur 300 pages pourquoi il va gagner, et les 30 dernières, c'est pourquoi, à mon sens, il va perdre. Donc je pense qu'on va parler un petit peu de ça ce soir. Je pense qu'effectivement, Donald Trump, en tout cas si rien ne change d'ici le 3 novembre 2020, ne fera pas un deuxième mandat.
Gérard, vous mettez une pièce sur un deuxième mandat pour Donald Trump.
Je mets plus qu'une pièce, je mets un gros billet.
Il s'engage.
Je mets un gros billet sur la réélection. Non, je ne dis pas, en disant ça, je ne veux pas vous faire croire que je la souhaite absolument et que je suis un Trumpiste.
Non, c'est votre regard, c'est une analyse.
Mais en tant qu'analyste des États-Unis, que je suis devenu au fil des années, puisque j'y passe pas mal de temps, pas de manière universitaire comme mon ami, qui est probablement plus féru que moi sur les institutions, etc. Moi, je vois ça au niveau des Américains dans la rue, de ceux que je retrouve tous les ans, que j'ai vu évoluer, voter. Et en fonction de ça, j'avais dit il y a 4 ans, j'avais dit aux grandes voix d'Europe 1, on n'était pas très nombreux à l'époque dans la rédaction d'Europe, il y avait Olivier Duhamel et moi qui avions dit « attention, Trump va être élu ». Les autres commentateurs, beaucoup de commentateurs français, à Europe, mais bien aussi dans toutes les rédactions, disaient « pensez-vous, ce bouffon, enfin, tout ce qu'on disait à l'époque, ce nullard absolu, etc., ne sera jamais élu ». Bon, il a été élu. Et là, aujourd'hui, je dis... Alors, j'ai écouté avec intérêt le bilan fait par Xavier depuis là-bas. Je partage évidemment, ça c'est du factuel, tout ce qu'il a dit est juste. Et je pense que les Américains ne sont pas des gens ultra sophistiqués comme nous. Nous, on est férus de politique et de la politique très, très souvent machiavélienne, un petit peu sophistiquée. Eux, ils sont simples, les Américains. Est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui ? Est-ce qu'ils se sentent mieux dans leur peau aujourd'hui ? Ou pas ? Si c'est non, eh ben, ils voteront pas pour le sortant. Si c'est oui, ils voteront pour le sortant. Et je crois qu'au niveau de ce qu'ils appellent bread and butter, le pain et le beurre, c'est-à-dire le niveau de vie, le job, etc., ils sont aujourd'hui plutôt contents de Trump. Alors, ça ne veut pas dire que toute l'Amérique, ça sera encore une élection serrée, mais je pense donc, moi, résolument, qu'il sera réélu.
Oui, parce que Xavier, il est particulièrement, on le sait, hein, même vu d'ici, il est particulièrement clivant, Donald Trump.
Oui.
Oui, c'est vrai, mais pour rebondir à ce que disait Gérard, il y a quand même une majorité d'Américains, les sondages, les enquêtes d'opinion sur Trump le montrent, qui en ont ras-le-bol hein, de Donald Trump, qui aimerait changer. Le problème, c'est que tous ces gens-là ne vont pas forcément voter. C'est ce qui s'est passé en 2016, c'est pour ça qu'il a été élu. Et puis il y a le système électoral américain qui fait aussi que c'est plus compliqué. Et Donald Trump, il sait très bien sur qui il peut compter ou pas compter pour être réélu. Donc la stratégie, elle est très claire. On l'a vu hier dans son meeting de lancement de campagne. Il veut surmobiliser sa base, comme il l'a fait en 2016. Il veut refaire le coup de 2016. Il ne peut compter que sur sa base, qui est puissante, mais il n'a pas élargi son socle électoral en étant à la Maison-Blanche, puisqu'il a, comme vous l'avez dit, il a clivé, il a énervé beaucoup d'Américains, il n'a pas réussi à rassembler, il n'a même pas essayé d'ailleurs, hein, ce n'est pas du tout son but. Donc on a bien entendu hier, dans le meeting, il surfe sur la colère qui existe toujours dans son électorat, qui est majoritairement blanc et rural, qui est attaqué dans son identité. D'ailleurs, Donald Trump veut absolument donner le sentiment à ses partisans qu'ils sont assiégés, qu'on va leur retirer leur mode de vie et que c'est terrible, l'Amérique va s'effondrer, que les démocrates veulent détruire l'Amérique et en faire un pays socialiste, notamment en laissant la porte ouverte aux immigrés. Donc tout ça, c'est les recettes de 2016. Il va s'en servir parce qu'il sait que pour gagner, la seule chose qu'il faut, c'est qu'il va sortir tous ces Américains qui n'avaient jamais voté en 2016. Il y a plein d'Américains qui n'avaient jamais voté en 2016, qui sont sortis pour voter pour Donald Trump. Il a réussi à créer un mouvement et ce mouvement, il le perpétue. On l'a vu hein, depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il a fait des tas de meetings de campagne. Il en a fait une soixantaine depuis qu'il est à la Maison-Blanche parce qu'il veut que le mouvement continue, que les gens aillent voter le 3 novembre. Il leur a dit d'ailleurs rien. Il a dit le 3 novembre, c'est votre big day, c'est votre grand jour. Il faut aller voter, 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 voter.
19h36. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, le débat qui continue jusqu'à 20h sur Donald Trump avec Jean-Éric Brana, Xavier Yvon et Gérard Carrérou. À tout de suite.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, qui est en duplex avec nous, Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1, et Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2, auteur de « Et s'il gagnait encore ?» chez VA Édition.
Justement, Jean-Éric Brana, pourquoi ne gagnerait-il pas encore ? On a entendu l'état des lieux de Xavier Yvon, on a entendu l'analyse de Gérard Carrérou. Pourquoi est-ce que, selon vous, Trump serait battu dans un an et demi ?
On va parler de quelques raisons, mais je vais en reprendre deux qui ont été expliquées par Xavier Yvon et par Gérard Carrérou. Ça, on va peut-être avancer. Par exemple, Gérard nous a dit, à juste titre, et c'est là où on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est en prise avec la société américaine, que les Américains n'aiment pas en fait ce qui dépasse. En réalité, ces Américains n'aiment pas trop la politique. Ils aiment le consensus. Ils n'aiment pas que ça secoue. Et c'est vrai que si Donald Trump a réussi un coup assez extraordinaire, j'avais dit un hold-up, moi, en 2016, ça va être très dur à refaire une deuxième fois parce qu'aujourd'hui, il s'est institutionnalisé. Et quand on est présidentiel, président, c'est très difficile d'être en même temps celui qui renverse la table. Et regardez, ce lancement de campagne a été assez catastrophique, puisque alors que des gens étaient venus de l'ensemble des États-Unis, on nous l'a assez vendu et survendu, et Donald Trump lui-même a même expliqué qu'il n'y avait que des rockers qui étaient capables de réunir une foule pareille, il a lu un prompteur. C'était absolument terrible. Et quelle déception pour les gens qui venaient le voir. Et il n'y a eu aucune grosse annonce, comme je reprends ce que disait Xavier Yvon. Tout à l'heure, quand il rappelait cette descente de l'escalator, mais à la sortie, à la descente tout en bas, il a quand même eu cette parole assez extraordinaire. Vous avez vu, il y a des voleurs et des violeurs au Mexique et moi je vais mettre un mur. Et c'est pour ça qu'on a parlé de Donald Trump tous les jours. Ensuite, on peut rajouter, hein, il y a eu, tiens, Megyn Kelly, pourquoi vous êtes en colère ? Parce que vous avez vos règles. Ou alors, j'imite un journaliste handicapé, puis j'en passe et des meilleurs. Ça a été ça tout le temps avec Donald Trump. Hier, c'était trop gentil.
Là, le président, un président en exercice ne peut pas avoir la même campagne que...
Mais non, mais il a appris le boulot. Aujourd'hui, c'est un président. C'est plus Donald Trump, le ouais. formidable, qui venait absolument... tout secoué. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, je l'ai perdue en route, je voulais rebondir sur Xavier Yvon.
Eh ben moi, je vais rebondir sur Xavier Yvon, comme ça, je vais vous revenir.
Tout le monde rebondit.
Parce que chacun nous a donné, en réalité, une raison qui fait qu'on peut l'expliquer, mais je vous en donnerai d'autres pendant la soirée, mais je voulais cet exemple en particulier.
Xavier Yvon, simplement, pas d'annonce, effectivement, hier soir, peut-être faut-il attendre aussi de connaître l'adversaire de Donald Trump.
Oui, alors si on écoutait bien le meeting comme je l'ai fait hier soir, on a l'impression que l'adversaire de Donald Trump, c'est toujours Hillary Clinton. Il l'a cité une quinzaine de fois. Et moi, pour avoir vécu la campagne de 2016, j'ai eu l'impression de monter dans une machine à remonter dans le temps et d'être en 2016, à l'un des nombreux meetings de campagne que j'avais... auquel j'avais assisté de Donald Trump, où il tapait à raccourci sur Hillary Clinton, où il faisait chanter mettez-la en prison, mettez-la en prison. Il a quasiment pas cité les potentiels candidats démocrates face à lui, juste une fois Joe Biden et l'ancien vice-président de Barack Obama, et une fois Bernie Sanders, c'est tout. Mais c'est sûr qu'il va falloir connaître le visage de son adversaire, et là, Donald Trump, il est bien connu pour ça, il va pas retenir ses coups. Il a déjà commencé, en dehors du meeting, à donner des surnoms, il adore ça, à ses potentiels adversaires. Et c'est vrai que là, ça va être un grand dilemme pour les démocrates. Ils vont choisir leur champion face à Trump. Il y avait plus d'une vingtaine de candidats. La semaine prochaine, il y a les premiers débats à la télé pour convaincre les électeurs. Et puis, la primaire commencera l'année prochaine, en février 2020, par l'Iowa, comme d'habitude. Et le dilemme des démocrates, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met quelqu'un comme Joe Biden, qui, visiblement, a l'assurance de battre Trump, parce que c'est aussi un vieux mâle blanc qui saura parler à l'électeur du Midwest, au Sud aussi, etc. Et qui, dans tous les sondages qu'on a maintenant, alors qu'ils sont seulement un an et demi de l'élection, bat Trump par des marges très, très exceptionnelles. Ou alors, est-ce qu'on choisit un candidat plus à gauche, parce qu'il y a toute une partie du Parti démocrate qui est en train de tirer vers la gauche, vers plus de mesures sociales, et qui dit c'est comme ça qu'on répondra à la colère suscitée, à la colère que Trump a alimenté. C'est les gens qui vivent mal, il faut qu'ils vivent mieux, il faut qu'ils aient une meilleure assurance santé, il faut qu'ils aient des salaires plus élevés, des meilleures conditions de travail, etc. Mais le problème, c'est que si on fait tirer le Parti démocrate plus à gauche, si on prend une Elizabeth Warren, par exemple, face à Donald Trump, ça va faire peur à tous les électeurs républicains dits modérés, ceux qui ont voté Trump en se bouchant le nez ou qui n'ont pas pu s'y résoudre, mais qui n'ont pas pu voter non plus Hillary Clinton. Donc ça va faire fuir une partie des gens qui sont au centre. Le problème, c'est que si on choisit un Joe Biden qui est un peu une eau tiède, ça ne va pas mobiliser les jeunes ou les minorités qui ont fait tant défaut à Hillary Clinton en 2016.
Gérard Carrérou.
Moi, je crois qu'il y a une chose qui reste et qui jouera encore en faveur de Donald Trump cette fois. Je crois qu'il est avant tout, son élection, quand on regarde sociologiquement, c'est l'élection autour du mot déclassement. Une grande partie des Américains, je ne parle pas des New-Yorkais ni des Californiens, il y a deux Amériques, il y a l'Amérique des deux côtés, j'ai cité volontairement New York, Washington d'un côté et San Francisco, Los Angeles de l'autre, mais il y a l'Amérique au milieu, les 48 États qui sont au milieu. Ces gens-là, dans beaucoup de ces États, il y a eu effectivement, de préférence chez les Blancs, il y a eu un sentiment de déclassement, l'impression que le pays foutait le camp, quoi, que les boulots, les jobs partaient, qu'il n'y avait plus les jobs, que les mines fermaient, que les usines fermaient, etc. Déclassement. Ils se sont sentis descendre dans l'échelle sociale en se disant « mais même nos enfants vivront plus mal que nous ». Et ça explique largement cette sociologie. Et là, Trump leur a redonné à ceux-là l'impression qu'il y avait des boulots qui arrivaient, qu'on pouvait recréer des jobs, que l'économie marchait bien. Enfin, j'ai toujours cette une du Monde. Le Monde, en France, n'est pas le journal qui a fait campagne pour Trump.
Non, c'est pas
Trump,
ce qu'il y a de plus Trump.
Hein. Le Monde a quand même fait une extraordinaire. Deux pages, il y a un mois. Emploi, croissance, salaire, le miracle économique américain, etc. Donc ça, pour ces gens qui étaient... Ce sentiment que pour eux, ça allait pas bien... Ils se sentent mieux. Je pense qu'ils revoteront pour Trump. Et puis, ce qu'ils n'aimaient pas, ces gens-là, et qu'ils n'aiment pas plus aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de l'élite washingtonienne. Hillary Clinton était le très mauvais candidat parce qu'elle incarnait merveilleusement bien l'élite washingtonienne. Elle était ce pouvoir. En France, on dit les sachants ou on dit les élites. C'était un peu ça. Et la détestation des élites est forte. Donc je pense qu'à nouveau, ça jouera. Et alors, dernier point, effectivement, tout dépend de l'adversaire. Joe Biden est un type formidable. Je pense que c'est un homme vraiment humainement très bien. Je pense pas que c'est une bête de campagne. Et je pense que si c'était lui le candidat, contrairement aux sondages d'aujourd'hui qui sont trop loin, enfin très loin de l'échéance,
oui, parce que c'est
je crois qu'il serait battu. Donc il faudra que les démocrates trouvent autre chose que Joe Biden.
Jean-Éric Brana.
Alors, je suis en désaccord hein, sur la conclusion. Je pense que Joe Biden peut aller au bout. Effectivement, on est très loin et on ne va pas tenir compte des sondages aujourd'hui. Ça, on est tous d'accord. Effectivement, ça peut bondir dans tous les sens.
On va rester prudent.
Et dans le peloton qui arrive derrière, n'importe qui peut émerger. Ils sont tellement, d'ailleurs, dans un mouchoir de poche qu'on peut rapidement, vous savez, les montées, elles se font de 10, 20, 30 points en quelques jours quand il y a un événement de campagne. Donc ça, on en a l'habitude. Bien évidemment, ça, c'est un fait acquis. Pour autant, Joe Biden Biden a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'il ne fait pas campagne en tant que Joe Biden, mais en tant que Barack Obama, puisqu'il joue quand même sur la nostalgie de Barack Obama, et il nous fait ça même très ouvertement depuis le départ, à tel point qu'il a même tweeté le jour de la Best Red Day, puisqu'il y a la journée des meilleurs amis aux États-Unis, en expliquant qu'il était le meilleur ami de Barack Obama, en tweetant deux bracelets, hein, il y avait marqué Barack et l'autre Joe, ça a fait BFF, beaucoup rire l'Amérique, mais ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire quelque chose, car ceux qui sont dans le même pack que lui ne peuvent pas l'attaquer, puisqu'il défend le bilan de Barack Obama, ce que n'a pas fait Hillary Clinton. Elle n'a jamais défendu le bilan de Barack Obama, et c'est bien ce que beaucoup lui ont reproché dans le parti. Et puis, deuxièmement, n'oublions pas que Joe Biden a aussi une très bonne cote personnelle parmi les démocrates, parce que c'est vrai qu'il vient, lui, d'un milieu ouvrier de Pennsylvanie, qu'il a ensuite bougé dans le Delaware. On connaît aussi les malheurs de sa vie, la perte d'un enfant très jeune, d'une femme, puis ensuite de son deuxième enfant, les affres de la maladie. Les Américains se reconnaissent énormément dans un homme comme ça, parce qu'on traverse tous des drames dans notre vie, et que quelqu'un qui les a surmontés et qui vient vous dire, bah, écoutez, moi je veux encore m'occuper de vous parce que je crois que tel est mon destin, ça peut fonctionner, et il pourrait effectivement aller au bout, presque sur un malentendu, mais à défaut, je crois qu'effectivement, il a de vraies bonnes chances.
19h47.
Europe 1.
Dernier tour de table. Et puis Franck, qui est au 39-21 depuis Nantes, supporter du président américain. On va écouter Franck au 39-21 dans un instant. À tout de suite.
À vos côtés, Mathieu Béliard, jusqu'à 20h, Jean-Éric Branat, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 2, auteur de Et s'il gagnait encore chez VA Éditions. Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1 en duplex. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, et vous intervenez au 39-21.
Franck est en ligne depuis Nantes. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté. Vous êtes, je vois que vous étiez en ligne avec nous depuis un moment. Vous êtes, vous le dites clairement, un supporter du président américain.
Ouais, voilà, parce qu'en France, les gens jugent beaucoup aux apparences, et c'est vrai qu'une personnalité comme Trump passe vite pour entre guillemets pour un con, hein, quelqu'un sans filtre, franc, vantard, je dirais direct, imprévisible et sans complexe. Enfin, quel homme politique en France pourrait gagner une élection en ayant une personnalité comme ça, voilà.
Alors, tout ce qui repousse sur le personnage de ce côté de l'Atlantique, pour vous, ce sont des atouts.
Alors, pour les Américains, enfin, je suis pas un spécialiste des Américains, mais je pense que ça leur parle beaucoup plus directement d'avoir quelqu'un de franc et direct, comme ça, qui dit ce qu'il va faire et qui fait tout pour le faire, hein, d'ailleurs, derrière. C'est un peu le contraire de ce qui se passe en France, où on a des gens plutôt inhibés, coincés du cul et qui sont très sophistiqués avec l'esprit tordu, quoi. Vous voyez ce
parfois,
que je veux dire?
Parfois, il y a un juste milieu, Américains. Parfois, mais bon. On parlera de la France une autre fois, Franck. Vous dites qu'il y a voilà, ce côté, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, il est costaud, il assume ses idées. Je vous garde, Franck, en ligne avec nous. Je voudrais juste demander à Xavier Yvon, parce qu'on a vu des scènes de liesse. Alors évidemment, tout ça, ce sont des images de lancement de campagne. Ces supporters, et j'en ai eu quelques-uns au 39-21 de ce côté de la France. Xavier, ces supporters, ils ont cette même considération pour le personnage Trump?
Oui, mais c'est ce que vient de dire Franck est juste. Hein, les Américains qui sont pour Donald Trump adorent sa personnalité, même s'il y en a beaucoup qui vous disent « oui, c'est vrai, il tweet un peu trop, parfois il va un peu trop loin, il insulte un peu trop ses adversaires, mais quand même, ça fait du bien ». Enfin voilà, ce que disait Franck est tout à fait juste. Et moi, depuis 3 ans que Trump est à la Maison-Blanche, je vais régulièrement faire des coups de sonde en Trumpland, en pays Trump, c'est beaucoup en Pennsylvanie notamment, pour aller prendre un peu la température. Et vraiment, ça n'a pas bougé d'un iota depuis 3 ans. Ils sont toujours derrière lui, quoi qu'il se passe. Il y a eu un peu, quand il y a eu l'histoire de la séparation des familles de migrants, il y a eu un peu, notamment chez les Américains très chrétiens, des critiques disant que ça, c'était quand même pas possible de faire ça. Mais ils sont avec Donald Trump. On l'a vu hier dans le meeting, c'est quasiment un demi-dieu. Il y a un culte autour de Donald Trump. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, et il l'avait dit d'ailleurs pendant la campagne il y a 4 ans, il a dit « si je peux tuer quelqu'un dans la 5e avenue à New York d'un coup de pistolet, et je perdrai aucune voix ». Et c'est vrai, je l'ai constaté très régulièrement en interrogeant des Américains. J'ai vu récemment des premiers doutes émerger. Alors c'est dans un contexte particulier. Je suis allé dans l'Illinois rencontrer des fermiers. Vous savez, là-bas, c'est, y a des très grands champs, etc. Et eux, ils commencent à souffrir de la guerre commerciale avec la Chine. Ils ont des taxes douanières qui sont imposées sur le soja et le maïs. Ils commencent à perdre de l'argent, à s'interroger sur le futur. Et là, ils disent, voilà, on aime beaucoup le président, mais ce serait bien qu'il arrête ça parce que nous, bientôt, on sera sur la paille.
On va suivre de très près. Alors, par contre, on parlait de la population et des supporters de Donald Trump. Côté médias, c'est toujours la même guerre, Gérard Carrérou ?
Ah bah écoutez, un des arguments que je n'ai pas utilisé, mais je vais l'utiliser pour conclure, c'est effectivement une des chances de Trump. Il a 80% des grands médias américains contre lui. Quand je dis 80%, pratiquement tous les grands journaux américains, à commencer par le plus beau fleuron, le New York Times, les grands journaux des grandes villes sont tous contre lui. Les grands médias, bon, vous me direz, il y a Fox News, c'est le seul, effectivement, le média de Murdoch qui le défend.
Mais c'est la télé la plus regardée.
La télé la plus regardée. Mais tous les autres, pratiquement, si vous allez en Amérique, là, en vacances, regardez les télés, écoutez les. Et vous allez vous dire, mais c'est incroyable, ils sont tous contre Trump. Et ça a joué pour Trump. Du coup, il a gouverné avec les tweets. Le gouvernement par les tweets a été une originalité formidable. Et ça a marché. Et ça va continuer. Et ça va continuer à marcher. Les grands établissements sont contre lui. Les services, comme on dit, le FBI, etc. Tout ça est anti-Trump. L'establishment de Washington anti-Trump. Les médias anti-Trump. Et ça marche quand même, grâce aux réseaux sociaux en partie.
Jean-Éric Brana.
Oui, alors cette partie réseaux sociaux est très importante parce que on se souvient qu'en termes de communication, Roosevelt faisait de la radio et de la communication comme ça. Kennedy, on l'a connu, c'était à la télévision. Obama, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. Donald Trump a inventé un nouveau système qui est le slogan, le vide, et on rebondit sans cesse sur ses tweets parce qu'il n'y a rien dedans. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tous captifs là-dedans parce qu'on fait tous sa promotion ou son cautionnement, ne serait-ce que parce qu'on le critique en le dénonçant ou parce qu'on dit très bien, regardez, il a fait son meeting hier soir, il y a eu cinq tweets. Regardez derrière les commentaires, deux tweets d'amour, deux tweets de haine, deux tweets d'amour, deux tweets de haine, et ça continue comme ça sur 60 000 tweets. C'est quelque chose d'assez incroyable. En réalité, c'est Claude François, vous voyez, pour comparer en France, qui ne laisse personne indifférent. Les gens se disent, j'adore ces chansons ou je les déteste, même ceux qui ont 20 ans, qui l'ont absolument pas connu et qui continuent à réagir dessus. Donald Trump, vous voyez, j'ai commencé, c'est la chevelure, j'ai commencé à les confondre tous les deux. Mais Donald Trump commence à connaître ses limites parce que, quoi qu'on en dise, j'écoutais Xavier Yvon tout à l'heure, il disait ça n'a pas bougé. Alors il faut peut-être aller du côté de la Virginie occidentale parce que les mines, c'est pas tout à fait ce qu'il avait promis. Et aujourd'hui d'ailleurs, il n'en parle plus du tout parce que de ce côté-là, il y a un tel reflux que les déclassés, ils sont là. Et ces déclassés-là commencent à se dire que Donald Trump, c'est peut-être aussi fake news.
Écoutez, je suis content parce qu'on a beaucoup parlé des Américains et c'était important pour se positionner dans ce débat. À l'occasion, on aura un autre débat aussi sur le Donald Trump à l'international, un volet qu'on n'a pas pu ouvrir ce soir. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Aussi, la Chine, bien sûr, l'Iran. En tout cas, je vous remercie tous les trois. D'abord, Xavier Yvon qui est aux États-Unis. Belle journée à vous, Xavier. Il vous reste tout l'après-midi.
Oui, c'est vrai, merci.
Notre correspondant européen aux États-Unis. Gérard Carrérou, vendredi avec nous ?
Oui, bien sûr.
Vendredi, parmi les grandes voix sur Europe 1. Merci Gérard Carrérou et Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Je vous conseille évidemment, Et s'il gagnait encore, chez VA Édition, un livre qui vient tout juste de sortir.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Éric. Et puis merci à Franck aussi, qui était en ligne avec nous depuis Nantes, au 39-21, 19h55. C'est l'heure de retrouver Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va Émilie ?
Ça va fort bien, et vous-même ?
Pas trop mal.
C'était bien votre émission, on a appris plein de trucs.
C'est vrai ? Hein ? C'est important. Mais non, mais il faut se mettre à la place des Américains aussi.
Oui.
Et pas que parler du Trump comme on le vit en France.
Le gros bonhomme orange qui crie tout le temps. Voilà,
Claude François. C'est Claude François.
Oui, alors me lancez pas sur Clo-Clo parce qu'il n'est pas blanc bleu. Hein. C'est compliqué Clo-Clo.
Oui, ce sera l'objet d'un vrai débat en entier.
Oui, voilà. Et Jean-Luc Lahaye, vous voyez ce genre.
On écoute Claude François ce soir ?
Pas du tout. Non. On va plutôt écouter IBI. Whatever happens, whatever happened. C'est deux sœurs, Lisa Kende et Naomi Diaz, IBI, qui sont à l'affiche du festival dont on va parler ce soir, le festival Afropunk, 5e édition française, un festival qui célèbre la beauté et la créativité des communautés noires. Ça va être à Paris, donc les 13 et 14 juillet, à la scène musicale.
Belle soirée en musique sur Europe 1, avec Émilie Mazoyer, bien sûr. Il est 19h56. À demain, Ambline.
À demain, 17h. Merci Mathieu Béliard. Dans une minute, l'information avec Isabelle Millet sur Europe 1. Europe 1.